Idrissa Seboudia.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 3 août 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Tout d'abord les titres. Au Niger, le chef de la junte, le général Abdourahmane Tchiani, rejette en bloc les sanctions et refuse de céder à toute menace dans un discours télévisé. L'intervention militaire au Niger serait la dernière option sur la table selon la CDAO. Au Mali, l'influenceuse Rokia Doumbia, condamnée à un an de prison ferme pour avoir dénoncé l'échec de la junte. Manifestation au Nigeria des syndicats de travailleurs contre le coût de la vie. Au Soudan, les civils sont victimes d'une horreur inimaginable, signale Amnesty International. L'ex-président américain Donald Trump, comparé devant un juge ce jeudi à Washington. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Niger, les militaires putschistes rejettent les sanctions infligées au pays par la CDAO, alors que l'ultimatum de l'organisation sous-régionale expire dimanche. Dans un message à la Nation hier soir, à l'occasion de la célébration ce 3 août de la fête de l'indépendance du pays, le général Abdourahmane Tchiani a réaffirmé sa volonté de conduire et poursuivre une transition militaire pour un changement d'approche dans la lutte contre le terrorisme et une gestion patriotique de l'État. Notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Le message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a duré une vingtaine de minutes. Après un bref rappel des motivations de leur action du 26 juillet qui a mis fin au régime du président Mohamed Bazoum, le général Abdourahmane Tchiani a réagi notamment aux sanctions prononcées contre le pays par la CEDEAO et l'UEMOA ainsi que la probable intervention militaire contre le Niger. Le CNSP rejette en bloc ces sanctions cyniques et iniques, a-t-il dit, ajoutant qu'elles visent à humilier les forces de défense et de sécurité, le Niger et son peuple.
Elles sont prises dans le prolongement et en coordination avec les sanctions déjà prononcées par certaines puissances étrangères qui ont fortement influencé leur surveillance. S'ils devraient aller jusqu'au bout de leur logique destructrice, puisse Allah veiller sur le Niger et faire en sorte que c'est le dernier grand combat que nous allons mener ensemble pour une véritable indépendance de notre pays.
Ce message du général Tchiani intervient alors que la délégation de la CEDEAO, venue négocier une sortie heureuse à la crise, séjourne à Niamey. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Merci Abdulrazak. S'agissant de la CEDEAO, un responsable de l'organisation régionale a déclaré hier qu'une intervention militaire au Niger serait la dernière option sur la table pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Parallèlement, l'aide internationale a continué de se tarir, la Banque mondiale annonçant la fin de ses déboursements au Niger. Rosine Munozero fait le point.
L'option militaire est la toute dernière option sur la table, le dernier recours, mais nous devons nous préparer à cette éventualité, a déclaré Abdel Fattah Moussa, le commissaire de la CEDEAO chargé des affaires politiques et de la sécurité. Il s'exprimait à l'ouverture d'une réunion des chefs d'état-major ouest-africains à Abuja, au Nigeria, qui doit s'achever vendredi, 2 jours donc avant l'expiration dimanche d'un ultimatum de la CEDEAO exigeant un retour à l'ordre constitutionnel. À Moscou, la diplomatie russe a appelé au dialogue pour éviter une dégradation de la situation, estimant que la menace de recourir à la force contre un État souverain ne contribuerait pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays. Dans la journée, plusieurs avions ont procédé à des évacuations vers Paris et Rome. De son côté, Washington a ordonné l'évacuation de son personnel non essentiel à l'ambassade de Niamey. En ligne avec les sanctions de la CEDEAO, le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, qui dépend énergétiquement à 70% de son voisin. La Banque mondiale a annoncé, quant à elle, la suspension des déboursements pour toutes ses opérations et jusqu'à nouvel ordre à destination du Niger. Elle a dépensé dans le pays 1,5 milliard de dollars en 2022 au travers de ses différents programmes d'aide.
Ajoutons que le Royaume-Uni réduit temporairement le nombre de ses employés dans son ambassade à Niamey en raison de ce qu'il a appelé la situation sécuritaire au Niger. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le ministère britannique des Affaires étrangères sur son site réservé au Conseil aux voyageurs. En Côte d'Ivoire, les hommages au défunt ex-président Henri Konan Bédié se multiplient. Le président Alassane Ouattara a salué un grand homme d'État. Laurent Gbagbo l'a présenté comme un acteur majeur de la vie politique ivoirienne, pendant que le président de la Commission de l'Union africaine a exprimé sa compassion émue, Mohamed Houmfa.
Je rends hommage à mon aîné, un fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance ivoirienne et un grand homme d'État qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays, a indiqué M. Ouattara dans un communiqué. Il a décrété un deuil national de 10 jours du mercredi 2 au vendredi 11 août, pendant lequel les drapeaux seront en berne sur tout le territoire, selon un autre communiqué. Laurent Gbagbo, également ancien président de 2000 à 2011 et figure historique de l'opposition, a lui salué un acteur majeur de la vie politique ivoirienne, annonçant la suspension jusqu'à vendredi de toutes les activités de son parti, le PPACI, Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a adressé sur Twitter ses condoléances les plus émues et sa profonde compassion au président Alassane Ouattara, au peuple ivoirien et à la famille de l'illustre disparu.
Une influenceuse malienne a été condamnée hier à un an de prison ferme. Cette condamnation fait suite à ses critiques envers les militaires au pouvoir, les accusant d'échec dans la gestion de l'insécurité et de l'inflation. Le point avec Eric Manirakidza.
Rokia Doumbia, connue au Mali pour son engagement contre la vie chère et très suivie sur les réseaux sociaux, était poursuivie pour outrage au chef de l'État, incitation à la révolte et trouble à l'ordre public par l'usage des technologies de l'information et de la communication. « Sous votre gouvernance, ça nous va pas », avait-elle lancé en mars dans un live en direct sur TikTok à l'adresse du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avant d'être écroué. « Aucun Malien ne vit en paix », avait-elle ajouté, alors que les autorités assurent régulièrement avoir repris l'initiative face aux djihadistes. L'insécurité gagne du terrain partout, avait-elle dit. Cette transition est un échec avec 0% de résultats, avait déclaré Doumbia en parlant de la période de gouvernance militaire censée précéder le retour annoncé pour 2024 des civils à la tête du pays. En plus de la peine de prison, Rokia Doumbia doit aussi payer une amende d'un million de francs CFA. Nous avons fait appel, a déclaré son avocat, Maître Kassoum Tapo. Les voix discordantes peinent à se faire entendre au Mali, sous le régime des colonels au pouvoir au Mali depuis 2020.
Les civils sont victimes d'une horreur inimaginable au Soudan, où s'affrontent depuis le 15 avril l'armée et les paramilitaires, a déploré jeudi Amnesty International. Dans un rapport intitulé « La mort a frappé à notre porte », l'ONG fait état d'une généralisation des crimes de guerre avec des attaques aveugles et délibérées contre la population civile. Ce rapport porte surtout sur des faits relevés à Khartoum et dans la région du Darfour dans l'Ouest. La guerre au Soudan a déjà fait plus de 3 900 morts selon l'ONG à Kled et près de 4 millions de déplacés et réfugiés selon l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité américaine, l'ancien président Donald Trump, inculpé une nouvelle fois mardi, doit comparaître devant un juge ce jeudi à Washington pour répondre de chefs d'inculpation liés à la présidentielle de 2020. Le procureur Jack Smith a indiqué vouloir un procès sans délai d'illico.
L'acte d'accusation de 45 pages décrit le favori des Républicains pour la présidentielle de 2024 comme ayant mis au point un projet criminel pour empêcher une transition de pouvoir pacifique. À l'issue d'une enquête de plusieurs mois, supervisée par le procureur spécial Jack Smith, Donald Trump est accusé d'avoir poussé des responsables dans certains États à ignorer le vote populaire, d'être à l'origine d'un stratagème impliquant de faux grands électeurs et d'avoir fait pression sur son vice-président Mike Pence pour qu'il use de son rôle lors de la certification des résultats afin de les modifier à son avantage. Il est également accusé d'avoir exploité l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 en sa faveur. Il s'agit des accusations les plus sérieuses portées contre Donald Trump, déjà poursuivi au pénal dans 2 autres affaires. Donald Trump a de son côté accusé le procureur Jack Smith de vouloir entraver sa campagne pour 2024.
États-Unis toujours, l'auteur d'une attaque armée en 2018 dans une synagogue de Pittsburgh, la plus meurtrière contre des juifs dans l'histoire de ce pays, a été condamné mercredi à la peine de mort par un jury fédéral, une première sous la présidence de Joe Biden. Un corps sans vie a été retrouvé pris dans une barrière flottante anti-migrants installée par l'État américain du Texas à la frontière avec le Rio Bravo au Mexique, a annoncé mercredi dit le gouvernement mexicain. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, conformément aux sanctions de la CEDEAO contre ce pays déstabilisé par un coup d'État. Un agent de la société nigérienne d'électricité a indiqué que la capitale Niamey est alimentée grâce à la production locale. 70% de la part d'électricité au Niger provient de l'achat à la société nigérienne Mainstream via le barrage de Kanji. Le Niger compte achever d'ici à 2025 son premier barrage, le barrage de Kandaji, sur le même fleuve. Au Nigeria, des milliers de travailleurs ont manifesté hier dans plusieurs villes pour protester contre l'inflation provoquée par la décision du président Bola Tinubu de mettre fin aux subventions sur les carburants. Les syndicats avaient appelé à manifester après l'échec des négociations avec le gouvernement sur une hausse des salaires et le maintien des subventions. Depuis cette mesure, le prix de l'essence a quadruplé. Le Kenya a annoncé suspendre la crypto-monnaie WorldCoin, dont le système de vérification est basé sur une reconnaissance de l'iris, en attendant le résultat d'enquête sur la sécurité et la protection des données collectées par la compagnie. Lancé fin juin en Allemagne par le patron d'OpenAI, Sam Altman, le système WorldCoin fait aussi l'objet d'investigations par des régulateurs européens.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite ce jeudi des derniers matchs de la phase de poule du Mondial féminin.
Oui, dans le groupe F, le Maroc a l'occasion d'arracher une première qualification historique en 8e de finale du Mondial féminin. Pour cela, les Lions de l'Atlas devront battre la Colombie et espérer une défaite de l'Allemagne face à la Corée du Sud. Depuis hier, l'Afrique compte son 2e représentant en 8e de finale. Après le Nigeria, l'Afrique du Sud a arraché son ticket pour les 8e après sa victoire 3-2 face à l'Italie, quart de finaliste de l'édition 2019, menée 1-0. Après seulement 11 minutes de jeu, les Sud-Africains n'ont marqué pas 2 fois avant de concéder un second but, synonyme d'élimination à la 74e. Mais Thembi Gatlana a offert à son équipe la victoire dans le temps additionnel en profitant d'une 1e erreur défensive italienne. Les Banyana Banyana disputeront pour la première fois de leur histoire les 8e de finale. Les Sud-Africains, 2e du groupe D avec 4 points, seront opposés aux Néerlandaises, 1e du groupe E, après leur victoire 2-0 contre les Argentines.
Basketball avec les nouvelles de l'Afro-Basket Dames qui se déroule à Kigali au Rwanda.
Au programme, 2 matchs de classement pour les 5e et 8e places. Le Cameroun affronte la Guinée et le Mozambique joue contre l'Ouganda. En quart de finale hier, le Mali a écrasé la Guinée 96-40. En demi-finale, les Maliennes vont affronter les Sénégalaises qui ont disposé des Camerounaises 80-77. La seconde demi-finale mettra aux prises le Rwanda qui a battu l'Ouganda 66-61 et le Nigeria qui a écarté le Mozambique 59-52. Pour rappel, cette 28e édition de l'Afro-Basket Dames a commencé le 28 juillet avec 12 équipes au départ. La finale aura lieu le 5 août à la Beka Arena dans la capitale rwandaise.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, des milliers de travailleurs sont descendus dans la rue à Abuja et dans les autres États du pays à l'appel de la NLC, la puissante centrale syndicale, pour protester contre la vie chère et ce que les syndicats appellent les politiques anti-masse du gouvernement du président Bola Tinubu. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
C'était plusieurs centaines de manifestants, tous demandent la puissante centrale syndicale du pays à descendre dans les rues de la capitale fédérale, Abuja. Les syndicalistes nigériens protestent contre les prix élevés du carburant et des denrées alimentaires, une inflation élevée causée par la suppression de la subvention au carburant. Les négociations entre les syndicats et le gouvernement fédéral n'ont pas encore abouti à un accord. Benjamin Anthony, président du syndicat des sociétés publiques.
Le salaire minimum garanti expirera l'année prochaine et les travailleurs ne peuvent pas supporter ces difficultés jusqu'à l'année prochaine car le prix de tout sur le marché a augmenté. Les travailleurs ne peuvent donc pas attendre. Nous voulons donc une revalorisation salariale. Deuxièmement, des palliatifs pour le peuple nigérian.
Les syndicats exigent un nouveau salaire minimum et jugent insuffisantes les mesures radicales annoncées par le président Bola Tinubu pour atténuer les effets de la suppression des subventions au carburant. Jimmy Innocent et Alumine sont venus participer à la manifestation.
La situation m'affecte sérieusement parce que je suis fonctionnaire après tout. Le salaire ne mérite même pas qu'on en parle. Combien vaut le salaire pour en parler? Maintenant, depuis la fin de cette subvention, je ne peux pas conduire ma voiture parce que je ne peux me permettre d'acheter du carburant. Je ne peux pas. Je pense même, et j'ai dit à mes enfants de m'acheter un vélo pour que je puisse faire le chemin de Kouboua jusqu'à mon bureau.
Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à cause des transports. Ils ne peuvent pas venir en ville tous les jours. Peut-être que certains d'entre eux ont un salaire de 30 ou 40 000 naira. Et votre transport, si vous habitiez en dehors d'Abuja, juste par exemple Malaraba, jusqu'au centre-ville, vous payez 1000 naira. Donc pour aller et retour, c'est 2000 naira par jour.
Certains des manifestants à Abuja portaient des pancartes avec des slogans comme « Nous protestons contre la suppression de la subvention et la souffrance du peuple nigérian » ou encore « Tinubu tue la corruption, pas la subvention au carburant ». BRICS aussi a fait le déplacement.
Les travailleurs ne peuvent plus supporter de payer des prix élevés. Les prix ont augmenté de 600 à 700% dans divers domaines et vous savez que la plupart de la main-d'œuvre vit en dehors du centre-ville. C'est donc une situation très grave et les effets multiplicateurs sur d'autres commodités ont également rendu le niveau de vie des travailleurs insupportable.
La manifestation d'Abuja s'est déroulée sous une forte présence des agents de sécurité pour éviter tout débordement. Elle se poursuivra pendant une semaine pour mettre la pression sur les autorités fédérales. Dans un discours télévisé à la Nation lundi, le président Tinubu a appelé à la patience vis-à-vis de la mise en œuvre de ces réformes qu'il considère primordiales pour son administration. Un appel ignoré par les manifestants. Le gouvernement fédéral défend la suppression de la subvention au carburant comme une mesure qui a permis de mettre fin au déblocage des milliards de dollars des caisses de l'État chaque année au nom de la subvention au carburant. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Togo, les aires protégées et parcs naturels nationaux subissent des changements causés par l'activité humaine depuis des décennies. Dans la région maritime, la forêt classée de Togodo est l'une des rares qui résiste. Un projet d'appui à sa conservation de près d'un milliard de francs CFA a été initié par les autorités togolaises. De Lomé, notre correspondant Kossi Woussou.
La réserve de Togodo est une aire protégée d'une superficie de 25 000 hectares partagée entre la préfecture de Hao dans la région des plateaux et la préfecture de Yoto dans la région maritime où elle est la seule aire protégée viable dans cette partie. Yao Komi, le coordonnateur adjoint du projet d'appui à la conservation de la forêt de Togodo.
Il n'y a pas seulement l'aire protégée de Togodo dans la région maritime. Il y en a d'autres. Mais en termes de viabilité, surtout en matière de gestion de la biodiversité. C'est dans la réserve de Togodo. C'est la seule où on est sûr aujourd'hui que quand on y rentre, on peut trouver ces différentes espèces qu'on doit préserver.
Gbemou Komi, lieutenant des eaux et forêts, assure la surveillance de la partie sud de cette vaste étendue de forêt à partir du village de Tometi-Kondi.
Toutes les activités humaines sont interdites à l'intérieur du parc. Toute personne que nous voyons, que ce soit les gens qui viennent pour faire le pâturage, les gens qui viennent pour faire la chasse, pour couper le bois, pour chercher le miel, pour chercher les médicaments, c'est qu'ils sont en infraction.
En cette matinée pluviale dans le village de Tometi-Kondi, dans le sud du Togo, les conversations portent sur l'arrestation d'un groupe de bergers qui est entré avec les bœufs dans l'aire protégée. Gbemou Komi avoue que le travail est ardu, faute de moyens.
Nous sommes trois agents forestiers ici, en plus de 25 pisteurs qui nous accompagnent pour essayer de parcourir ces 15 000 hectares. Il n'y a pas de piste pour pouvoir faire cette surveillance-là aisément. Et en dehors de ça, les motos que nous utilisons sont vêtues.
Le sentiment est partagé par Atiglido Amavi, un pisteur.
Nous étions des chasseurs. Ils nous ont reconvertis en pisteurs afin de les aider dans la surveillance. Mais le travail est très dur. Des fois, nous faisons deux ou trois jours dans la forêt pour repousser les braconniers. Mais nous ne sommes pas payés alors que nous sommes des pères de famille.
Le projet d'appui à la conservation de la biodiversité de la forêt classée a initié un reboisement d'une ceinture verte de 10 hectares pour permettre aux populations riveraines de se servir en bois de chauffe et autres. Adjaonu Kwami, responsable de l'Union de l'Association villageoise de gestion des aires protégées, apprécie.
De nos jours, nous sommes associés à la gestion de l'air protégé de Togodo. Nous saluons les projets entrepris à notre endroit pour qu'on ne s'approvisionne plus dans la forêt. Mais ils sont insuffisants. Un seul projet ne peut pas faire l'affaire. Nous souhaiterions qu'ils soient nombreux afin qu'ils touchent plus de personnes.
Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Fin hier, ici à Washington, du Mandela Washington Fellowship Summit, le sommet des YALI, Young African Leaders Initiative, l'initiative des jeunes leaders africains. La cérémonie de clôture de cette édition 2023 a été présidée par le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken dans un hôtel de Washington DC où sont réunis pendant trois jours plus de 700 jeunes leaders africains. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Congratulations to all of the Mandela Fellows.
Le secrétaire d'État américain a clos ce sommet de trois jours qui a permis de réunir plus de 700 jeunes leaders africains à Washington après six semaines passées dans 28 universités et instituts américains, chacun dans son domaine parmi les trois principales filières, le leadership civique, le leadership en business et le leadership en gestion des affaires publiques. Anthony Blinken dit compter sur la créativité de ces jeunes leaders africains pour améliorer les relations entre les États-Unis et l'Afrique.
Je sais que votre créativité, votre optimisme, votre imagination, votre énergie ne vont pas seulement faire progresser les relations entre les États-Unis et l'Afrique, mais qu'elles vont aussi faire la différence. Elles vont faire la différence dans vos pays, elles vont faire la différence dans le monde entier. Et si vous avez l'occasion dans votre vie de faire ce genre de différence, c'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez vivre. Je ne pourrais pas être plus fier de vous, mais peut-être plus important encore, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire dans les années à venir.
Comme chaque année, le prix Mandela Washington Fellowship Leadership Impact a été attribué. Il récompense un jeune leader africain qui a eu un impact certain sur sa communauté après avoir participé au YALI. Cette année, le prix est revenu à l'Ougandaise Jamila Mayanga, YALI 2015.
Madame Mayanga œuvre pour l'accès des jeunes aux métiers dits masculins dans son pays.
Dans une entreprise sociale, j'ai commencé à donner aux filles et aux jeunes femmes les moyens de vivre un mode de vie sain et économiquement durable. Et je le fais par le biais de l'un de nos programmes appelé Gospel Tools. Nous formons des jeunes femmes vulnérables à des compétences non traditionnelles, dominées par les hommes. Il s'agit par exemple de l'ingénierie mécanique, de l'ingénierie électrique, de l'escalade, du bâtiment et de la construction. Ensuite, nous veillons à ce qu'elles soient certifiées par le gouvernement et qu'elles gèrent leur entreprise où nous les mettons en contact avec des entreprises.
Entre partage d'expériences, visites d'industrie ou de champs ici aux États-Unis, immersion dans des familles américaines et panels avec plusieurs personnes ressources, entre autres, les jeunes leaders africains repartent chez eux armés chacun dans son domaine de nouvelles connaissances et de plus de motivation, disent-ils. Anusha Sechorn est venue de l'île Maurice. Elle est une experte en changement climatique.
Pour moi, ça a été une grande leçon parce que là, je sais effectivement sur quelle action vraiment me concentrer au lieu de me concentrer sur toutes les actions. Et surtout aussi, on a appris sur le Partnership for Global Goals, donc être partenaire avec des autres organisations pour pouvoir avoir un échange entre nos pays et pouvoir bénéficier des expériences, des leçons et aussi des technologies. Donc pour moi, ça a été vraiment un plus.
La plupart de ces jeunes leaders africains repartent chez eux, mais une centaine restent. Ils sont retenus pour passer 4 semaines de plus dans des entreprises ou organisations publiques ou privées, chacun selon sa formation de base. Ils sont porteurs de grands projets et auront donc l'occasion de mûrir leurs réflexions en se confrontant davantage à ce qui se passe ici, aux États-Unis.
États-Unis toujours, l'ancien président Donald Trump continue d'étonner devant les autres candidats républicains à l'investiture du parti pour la présidentielle de 2024. De multiples actions judiciaires contre lui avec des mots de soutien de certains de ses rivaux. Comme vous le savez, M. Trump a encore été inculpé mardi pour ses tentatives d'annuler les élections de 2020. Anita Powell de la VOA se penche sur le parcours sans précédent de l'ancien président. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Donald Trump. Qu'il soit aimé ou détesté, pour de nombreux Américains, il semble qu'il n'y ait pas d'entre-deux. L'ancien président a retourné ses graves inculpations fédérales à son avantage politique, affirmant que les accusations étaient motivées politiquement.
Ce sont des actes d'accusation ridicules et tout ce qu'ils font, c'est espérer une ingérence massive dans les élections. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nuire au principal candidat.
Chaque nouvelle inculpation lui apporte un coup de pouce dans les sondages, lui donnant une avance à 2 chiffres dans la course républicaine à l'investiture. Et étonnamment, les très nombreux challengers présidentiels de Trump, y compris son challenger le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, disent qu'ils sont d'accord avec lui, comme le font certains républicains éminents du Congrès. Par exemple, le président de la Chambre basse, Kevin McCarthy.
Ils s'en prennent à quiconque se présente contre le président. Il semble que si vous montez dans les sondages, vous êtes plus susceptible d'être inculpé.
D'autres dirigent leur colère contre le procureur spécial, Jack Smith, qui a mené l'enquête ayant produit l'acte d'accusation de mardi sur les tentatives de Trump de conserver le pouvoir après avoir perdu les élections de 2020. Marjorie Taylor Greene, représentante de la Géorgie au Congrès.
Ce que fait Jack Smith, c'est qu'il arme le gouvernement et il arme le ministère de la Justice contre le président Trump avec un mensonge total sur le président Trump et le 6 janvier.
Ce soutien, dit Jérémy Souri, professeur d'histoire à l'Université du Texas, peut être dans l'intérêt personnel du candidat. La VOA l'a joint à Austin, Texas, via Zoom.
Le soutien que Trump reçoit d'autres candidats républicains et d'autres responsables républicains vient du fait que le système des primaires républicaines est un vrai chantier. C'est un système qui donne le droit à un petit groupe de républicains de se présenter à ces primaires. Parfois, ils sont dans des caucus. Parfois, ils votent pour des primaires. Ils se présentent et ils ne représentent pas le parti. Mais ils fournissent les votes clés dans les primaires qui déterminent qui sera le candidat du parti.
La Maison-Blanche a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'avait aucun rôle dans les déboires juridiques de Trump. Bien que cette situation ne soit peut-être pas la faute du président Biden, c'est un problème. Jérémy Souris affirme que le président doit faire trois choses. Premièrement, protéger l'accès des gens au vote. Deuxièmement, s'assurer que le système de justice peut faire son travail. Troisièmement, dit-il, il a un peu plus d'un an pour le faire avant que l'Amérique ne vote.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro.